Vous écoutez, on lit pour vous.
Conférence sur les droits des LGBTQ+ francophones. Un texte d'André-Constantin Passiour, paru le 24 juillet 2024 dans le magazine Fugue. Dans le cadre de Fierté Montréal, si vous vous intéressez de près ou de loin à la cause LGBTQ+ dans le monde de la francophonie, on vous propose une table ronde. Rôle du Canada et du Québec dans la promotion des droits humains des personnes LGBTQI à l'international. Le tout est organisé par EGIDE, soit l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et les diversités. Même si le Canada et le Québec sont à l'avant-garde de la défense des droits, spécifiquement ceux des communautés LGBTQI sur la scène internationale, on voit bien qu'il y a un net recul des droits de ces communautés un peu partout dans le monde. De plus, les fonds philanthropiques alloués à ces communautés ne suffisent pas pour aider les groupes LGBTQ+ dans la francophonie. Ce sera l'occasion de dévoiler les tout derniers résultats 2021-2022 du Global Philanthropy Project. Cette table ronde réunira des panélistes de type dignitaire politique, des représentants, représentantes de bailleurs de fonds internationaux et d'organismes, ainsi que des activistes LGBTQI. Le Canada et le Québec jouent un rôle moteur en ce qui a trait aux enjeux liés aux communautés LGBTQI, un rôle diplomatique de premier plan au sein de la francophonie, en plus d'être fortement engagé dans le financement accordé en soutien aux activistes LGBTQI. C'est ce qui sera discuté, entre autres, lors de ce panel. EGIDE collabore ici avec le Réseau Dignité Canada, réseau d'organisations canadiennes appuyant les droits des personnes LGBTQI dans le monde, de même qu'avec la Global Philanthropy Project, réseau international de bailleurs de fonds et philanthropes en soutien des personnes LGBTQI dans le monde. Mais pourquoi une telle table ronde? Parce que nous voyons et constatons que les organismes LGBTQI sont sous-financés, et ce, partout dans le monde, y compris dans la francophonie, estime Michael Arnaud. Le constat est très sombre. Moins de 1% des financements globaux en philanthropie vont aux organismes LGBTQI. Et il y a une différence entre les pays francophones et anglophones, alors qu'on voit que dans les pays francophones, les organisations LGBTQI sont moins financées. Nous faisons pression sur le gouvernement français aussi pour qu'il augmente son financement. Nous voulons obtenir l'engagement de continuer le financement destiné aux organisations LGBTQI dans la francophonie. Pour 100 $ US financés par une fondation, les communautés LGBTQI reçoivent moins de 39 cents. Les organisations LGBTQI sont les moins financées, ajoute Cyril Hamel, le responsable de la levée de fonds chez EGIDE. Attention aux lecteurs et lectrices. Il va y avoir ici une cascade de chiffres, et c'est consternant de constater à quel point peu de subventions ou de dons sont réalisés pour le compte d'associations LGBTQ+. Ces chiffres proviennent d'une étude réalisée par le Global Philanthropy Project en 2024, avec la traduction de l'intégralité en français assurée par EGIDE. Il y a eu un montant total de 905 millions de dollars US destinés au financement des communautés LGBTQI à l'échelle mondiale pour les années 2021-2022. Augmentation de 57 % comparativement à la période 2019-2020. 1296. Nombre de fondations, ONG intermédiaires et entreprises donatrices. 16. Nombre de gouvernements donateurs et agences multilatérales donatrices. 20 108. Nombre de subventions. 8 033. Nombre de bénéficiaires. Le Canada est le troisième gouvernement donateur le plus important au monde, premier francophone, après les Pays-Bas et les États-Unis. le budget des trois organisations anti-LGBTQI parmi les plus importantes au monde était de 1 milliard de dollars US en 2021-2022 contre 908 millions pour l'ensemble de la communauté LGBTQI à l'échelle mondiale, 8 033 bénéficiaires. Pour 100 dollars US financés par un gouvernement pour son aide au développement, les communautés LGBTQI reçoivent moins de 4 cents. Oui, vous avez bien lu. À l'échelle mondiale, on voit comment c'est très peu. C'est une goutte d'eau dans l'océan du financement international, poursuit Michael Arnault. À l'échelle mondiale, les fondations financent le moins les communautés LGBTQ+. Malgré tout, ce rapport 2021-2022 est encourageant parce qu'on voit une nette augmentation des dons comparée à la période précédente, indique Cyril Hamel. On parle des enjeux LGBT au sein de l'ONU. On parle de ces enjeux aussi au sein du Commonwealth, mais moins au sein de la francophonie. Égide se mobilise pour avoir plus de visibilité afin que l'on discute plus de financement des communautés LGBT dans la francophonie, soutient Cyril Hamel. En fait, on refuse de parler de l'égalité des genres à l'OIF, Organisation internationale de la francophonie. On parle plutôt de l'égalité homme-femme. On essaie d'interpeller l'OIF à ce sujet, mais il y a plusieurs pays qui ne veulent pas en entendre parler. Il y a même des pays comme la Mauritanie où l'homosexualité est punie par la peine de mort, de renchérir Michael Arnault. On sait que plusieurs pays africains, y compris des pays d'Afrique francophone, pénalisent les communautés LGBTQ+. Les organisations LGBTQ+ sont plutôt jeunes. Elles ont moins de 5 ans dans les pays d'Afrique francophone. C'est pourquoi elles ont besoin d'aide et de soutien, rajoute Michael Arnault. Bien sûr, les responsables d'Égide, comme dans d'autres organisations LGBTQ+, sont soucieux d'une certaine montée de la droite dans plusieurs régions du monde, y compris en Occident. Même au Canada, il se peut que le gouvernement Trudeau soit remplacé l'an prochain par les conservateurs de Pierre Poilievre. Mais quelle que soit la couleur du gouvernement, on veut travailler ensemble, commente Michael Arnault. Au niveau canadien, ce n'est que 0,01% des fonds qui sont dédiés à la promotion des droits LGBTQ+. Il faut rester prudent. Un des points forts de cette étude nous montre qu'on se doit d'être résilient face au choc des prochaines années lorsqu'on voit tout ce qui se passe sur la scène internationale, de terminer le directeur général d'Égide, Michael Arnault. C'était Conférence sur les droits des LGBTQ+ francophones, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 24 juillet 2024 dans le magazine Fugue.
Faire carrière dans les médias, un rêve qui s'effrite. Un texte d'Étienne Paré, paru le 15 août 2024 dans Le Devoir. Fut une époque où une carrière dans les médias faisait rêver nombre de jeunes qui sortaient du secondaire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, se plaisait-on à répéter, alors que les programmes en communication étaient hautement contingentés. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. La plupart des formations, tant collégiales qu'universitaires, subissent une baisse marquée des inscriptions depuis quelques années. La réponse facile, pour expliquer cette tendance, serait de mettre la faute sur le dos de la crise des médias qui a engendré des pertes d'emplois, ce qui peut laisser supposer qu'il s'agit d'un domaine sans débouché. Mais ce serait là un énorme raccourci, croit Alain Dufresne, le directeur du Collège Radio-Télévision de Québec, CRTQ, un établissement privé où plusieurs vedettes de la bande FM ont été formées. Même si les médias roulaient sur l'or, comme à la fin des années 1990 et au début des années 2000, on n'aurait pas plus d'étudiants, dit-il convaincu, se plaisant d'ailleurs à rappeler qu'il y a encore beaucoup de perspectives d'emploi dans le domaine. Alain Dufresne confie être régulièrement contacté par des propriétaires de stations de radio en région qui sont prêts à embaucher des finissants de son école. Or, le CRTQ ne forme plus assez de personnes pour combler les besoins. Et si son réputé programme de radio est aujourd'hui délaissé de la sorte, c'est tout simplement parce que les jeunes n'écoutent plus les ondes hertziennes avant que son détour son directeur. Moi, quand j'étais ado, je m'enfermais dans ma chambre pour écouter Chaume avec le son au bout. Quelle station de radio les adolescents écoutent-ils dans leur chambre aujourd'hui? Ça fait au moins 25 ans que la radio ne s'intéresse plus à eux. Et c'est la même chose pour la télé. Les diffuseurs sont accrochés à la sacro-sainte cible des 25-50 ans. Les jeunes ne s'y reconnaissent plus. C'est juste normal qu'ils ne rêvent pas de devenir le prochain Mario Lirette ou le prochain Patrick Masbourian, clame ce vieux routier de l'industrie, aujourd'hui dans le début de la soixantaine. Alain Dufresne se souvient que le CRTQ a longtemps accueilli entre 50 et 60 étudiants en moyenne chaque année. Il y a 10 ans, le nombre d'inscriptions était déjà descendu à une vingtaine environ. On parle désormais d'une dizaine d'étudiants par cohorte, à peine. Qui plus est, ceux qui suivent la formation en radio sont beaucoup plus âgés qu'avant. Très peu sortent du secondaire. Souvent, ce sont des gens qui ont déjà travaillé dans d'autres domaines et qui se sont fait dire qu'ils avaient des talents de raconteurs et qu'ils devraient s'inscrire en radio. La plupart n'écoutent pas la radio. Et comme ils sont déjà établis dans la vie, qu'ils ont parfois des enfants, un chum ou une blonde, c'est très difficile de les convaincre d'aller animer à Bécomo ou à Matane quand il y a un job qui s'ouvre dans une station là-bas, explique M. Dufresne. Le journalisme continue de faire rêver, mais différemment. Le Collège La Cité à Ottawa a pour sa part fermé son programme de radio il y a 2 ans, faute d'inscription. Le nombre d'étudiants en journalisme et en production télévisuelle au sein de cet établissement se maintient toutefois, grosso modo, au même niveau depuis 5 ans. À l'Université Concordia, le nombre de dossiers soumis pour l'admission en journalisme a augmenté dans les 10 dernières années, si l'on prend en compte les inscriptions non seulement au premier cycle, mais également à la maîtrise et au doctorat. Par contre, les demandes d'admission au baccalauréat en journalisme sont en net recul à l'UQAM. La baisse est de 24 % entre 2016 et 2023. Certes, quelques programmes en enseignement font pire. Reste que, parmi les principaux baccalauréats contingentés à l'UQAM, comme psychologie ou encore droit, celui en journalisme connaît l'une des baisses les plus marquées. Roland Yves Carignan, professeur à l'École des médias de l'UQAM, ne s'en inquiète pas outre mesure. Nos étudiants rêvent toujours de faire du journalisme. Je dirais seulement que les aspirations ont changé. Ils ne rêvent plus d'être le prochain Bernard de Rome. Ils ne conçoivent plus le journalisme seulement à travers les grands médias comme Radio-Canada, La Presse ou Le Devoir. Ils sont aussi intéressés à l'idée d'être pigiste ou de travailler dans de plus petits médias qui ont des auditoires plus nichés, indique cet ancien directeur de l'information du Devoir. Aussi difficile pour les relations publiques. Le nombre de demandes d'admission est en déclin dans la plupart des programmes en communication, même ceux qui ne sont pas précisément axés sur les médias. En 7 ans, on note une diminution de 27 % du nombre de dossiers de candidats désirant intégrer le baccalauréat en relations publiques de l'UQAM. Les universités de Sherbrooke et de Montréal rapportent également un déclin des candidatures à leur baccalauréat en communication. À l'Université Laval, le baccalauréat en communication publique affiche un taux d'abandon substantiel. Le nombre total d'étudiants de première, deuxième et troisième année a chuté de 40 % par rapport à il y a 10 ans. Il y a peut-être moins de nos étudiants qui veulent être journalistes qu'avant, mais ceux qui veulent le devenir sont très motivés. Ils savent que ce qui les attend ne sera pas facile. Par contre, ceux qui viennent pour travailler en relations publiques ou en publicité sont plus nombreux à déchanter en cours de route. Plusieurs pensent, au départ, que ce sera plus facile à cause de ce que leur vendent les influenceurs. Mais ils se rendent compte rapidement que ce sont des domaines très difficiles, relève Thierry Watine, directeur du département d'information et de communication de l'Université Laval. C'était « Faire carrière dans les médias, un rêve qui s'effrite », un texte d'Étienne Paré paru le 15 août 2024 dans Le Devoir.
Elle n'a jamais quitté cette île, ou presque, et ne regrette rien. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir. Il y a de ces sédentaires qui restent dans leur patelin toute leur vie. Isabelle Cloutier fait partie de ceux-là. Elle ne quitte jamais sa Côte-Nord natale, si ce n'est à reculons, même en vacances. Découvrir le monde extérieur n'est pas une priorité. Ce que je recherche, c'est une émotion, quelque chose qui va me faire grandir de l'intérieur, confie-t-elle au Devoir. Voyage chez ceux qui ne voyagent jamais. Qu'on le veuille ou non, quitter cette île n'est pas facile. Au moins 10 heures de route séparent le chef-lieu nord-côtier de Montréal. Ce coin de pays coincé entre un fleuve qui devient mer et une forêt qui devient toundra ne manque pas d'horizon, illustre la jeune trentenaire. L'essentiel, je pense, c'est l'émerveillement. Puis, la reconnaissance pour ce qu'on a. Essayez de me rappeler que même si je ne suis pas dans une méga maison, que je n'ai pas de biens matériels à tout casser, mon chez-moi, je l'ai fait confortable. C'est ça qui est important pour moi. Elle prend souvent ses vacances officielles l'hiver pour profiter en paix de la chaleur de son foyer. L'été, elle ne manque pas d'espace où marcher et se détendre. Sinon, les voyages le long de la route 138 qui sillonne la côte lui offrent tout l'exotisme qu'elle peut souhaiter. C'est juste assez dépaysant, pas trop. Ça fait en sorte que c'est réconfortant. Pour moi, c'est plus reposant que d'être obligé de tout planifier, de faire mon épicerie, d'acheter des affaires pour aller passer une fin de semaine au chalet. Puis, si j'oublie telle affaire, je ne sais pas, ça ne me tente pas. Voyager à l'intérieur de soi. Isabelle Cloutier a tout de même déjà mis les pieds hors de sa région. Elle conserve quelques beaux souvenirs des gens rencontrés l'une de ses rares sorties en ville, à Toronto. En revanche, elle conserve un souvenir un peu vide du paysage. En allant à Toronto, on est allé voir les chutes du Niagara. C'est là que je me suis rendu compte que je n'aimais pas les lieux touristiques. Oui, c'est une grande chute, mais il y a tellement de monde que je ne suis pas capable de me connecter à l'essence de la chute. Je ne suis pas capable de vivre la grandeur de la chute. Je suis déconcentré par le brouhaha ou par tout le bruit aux alentours. Je préfère de loin aller voir la chute Manitou sur la côte nord. Montréal et Québec ont aussi été foulés de ses pas. Elle a même habité dans la capitale pour les études. Pressée par le besoin de retourner vivre sur la Côte-Nord, elle a transformé son baccalauréat de 3 ans en certificat d'un an. Encore là, une absence s'est fait sentir lors de ce pseudo-voyage. Durant l'année où j'étais à Québec, j'allais souvent marcher. J'adore marcher. Au début, il me semble qu'il manquait quelque chose. Quand je suis revenu à cette île durant un congé, à un moment donné, je regarde le ciel et j'allume. C'est ça qui manque à Québec, les étoiles. Il y a des petites choses comme ça. Pour moi, j'essaie de garder mes yeux d'enfant, puis de tout le temps m'émerveiller de ces petites choses-là. Grandir si près de la nature explique cet attachement profond à cette île, postule-t-elle. La nature, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Durant l'année où j'étais à Québec, ça me manquait vraiment beaucoup de ne pas pouvoir aller marcher au quai. Après une grosse semaine, juste aller marcher au quai, voir la mer. J'ai vraiment un attachement profond pour la mer. Déambuler sur des plages qui s'étendent à perte de vue, à seulement 10 minutes de voiture de sa demeure, reste l'excursion qui convient le mieux à cette casanière. Je préfère plus être proche de ces choses-là. Sus à la performance. Il y a aussi le stress des vacances qui la turlupine. Même séjourner dans un camp, comme on en retrouve un peu partout dans les bois, implique une organisation, une performance qui l'essouffle. Effectivement, je n'ai pas envie de me rajouter du stress pendant les vacances pour dire que je planifie quelque chose. Son bonheur, renchérit Isabelle, c'est surtout les copains qu'elle retrouve. Sinon, il y a les livres qu'elle découvre. C'est plus les contacts humains qui m'intéressent que de voir des choses. Et ça, le contact humain, je peux l'avoir ici. Je suis entouré de personnes exceptionnelles. Quand même, dans ce vaste monde facile d'accès, n'a-t-elle pas le sentiment de manquer quelque chose? Je pense que ça a un rapport avec la capacité d'imagination, répond-elle. Je ne sais pas, j'aimerais bien, admettons, aller voir Auschwitz pour m'imprégner de ce lieu-là, de cette histoire-là. Ça pourrait être intéressant. En même temps, je considère que je suis capable de me l'imaginer un peu. Juste le voir, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a Internet, je peux aller chercher des photos. Si je veux, je peux quand même m'imprégner d'une certaine façon. Non, je n'ai pas nécessairement l'impression de passer à côté de quelque chose. Elle cite enfin une phrase de Rick Rubin qui résume sa vision. « Nous pouvons faire taire notre monde intérieur pour mieux percevoir l'extérieur, ou faire taire l'extérieur pour être davantage à l'écoute de ce qui se passe en nous. » C'était « Elle n'a jamais quitté cette île, ou presque, et ne regrette rien », un texte de Jean-Louis Bordeloux, paru le 27 juin 2024 dans Le Devoir.
Les livres pour enfants sont les plus ciblés. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans La Presse. La multiplication des livres interdits dans certains États américains touche davantage les œuvres pour enfants écrites par des auteurs de couleur, révèle une étude. Les chercheurs ont de plus constaté que ces mises à l'index s'inscrivent dans un contexte politique de comté où la majorité républicaine s'effrite. Nous avons été surpris de nos résultats, explique Cathy Spoon, étudiante au doctorat à l'Université du Colorado à Boulder, qui est l'auteur principal de l'étude publiée cet été dans la revue PNAS. Je m'attendais, par exemple, à ce que les interdictions visent surtout les romans d'amour avec des personnages de minorités ethniques ou sexuelles. Mais il n'y en avait pas beaucoup. La catégorie de livres le plus souvent ciblée est le livre pour enfants. Ces livres pour enfants jugés sulfureux sont en majorité écrits par des auteurs de minorités ethniques à 39% et sexuelles à 19%. Souvent, ce sont des ouvrages d'information, par exemple, sur des programmeuses de minorités ethniques. L'analyse a porté sur plus de 1500 livres interdits dans des bibliothèques publiques en 2022-2023, une liste établie par la section américaine de PEN, un regroupement international d'écrivains qui défend la liberté d'expression. Cathy Spoon confirme que les comtés où il y a plus de livres bannis sont ceux où le Parti démocrate est de plus en plus compétitif face aux républicains. C'est une action politique dans le cadre d'élections plus serrées. Les bannissements survenaient dans les comtés où la majorité républicaine était faible. Les comtés sans bannissement étaient soit démocrates, soit très majoritairement républicains. Il y avait moins de 5% de livres conservateurs, notamment une fois la Bible, parmi les livres bannis. Le bannissement de gauche est donc très minoritaire. Deux autres surprises de l'étude concernent l'immigration et le niveau d'éducation des militants qui organise les bannissements par les bibliothèques. On pensait que les comtés où il y avait beaucoup d'immigration seraient plus susceptibles d'avoir des bannissements, constate Mme Spoon. Et aussi qu'on les retrouverait surtout dans des comtés comprenant beaucoup de femmes blanches instruites et aisées, de familles traditionnelles, où seul l'homme travaille, parce qu'elles auraient les connaissances et le temps nécessaires pour faire les démarches. Mais ces deux hypothèses ne se sont pas vérifiées. Effet Streisand. Les chercheurs ont aussi vérifié l'impact de ces bannissements sur les ventes. Nous pensions qu'il y aurait un effet Streisand, dit Mme Spoon. Par exemple, que les libraires de gauche feraient un étalage avec les livres bannis de certaines bibliothèques publiques pour les promouvoir. L'effet Streisand est un phénomène qui tire son nom de la tentative infructueuse de la chanteuse et actrice Barbara Streisand, en 2003, d'enlever une photo de son manoir d'une banque de données publiques détaillant l'érosion sur les côtes californiennes. Avant son intervention, rappelle Cathy Spoon, peu de gens avaient téléchargé la photo. Mais après, il y a eu plusieurs centaines de milliers de téléchargements. Mais il n'y a pas d'effet Streisand pour les livres visés par les bannissements, a découvert à regret Mme Spoon. La seule exception est un modeste regain d'intérêt sur les recherches Google pour le livre « Gender Queer, un mémoire » de la bédéiste Maya Kobabé. Mais on ne peut pas distinguer l'effet du bannissement du livre de bibliothèque de l'effet de la couverture médiatique du livre après le bannissement. La prochaine étape dans ce domaine de recherche est de voir quel effet ont les bannissements de livres sur les minorités ethniques et sexuelles. Des études ont postulé qu'il y aurait des effets négatifs pour ces populations. Par exemple, elles pourraient se sentir visées par association ou alors pourraient souffrir d'un manque de livres représentatifs de leur expérience. Mais on n'a pas de données sur le sujet. En savoir plus, source PNAS, 10%, proportion des livres bannis qui étaient des romans d'amour. 7%, proportion des livres bannis qui étaient des romans centrés sur des personnages féminins. C'était Les livres pour enfants sont les plus ciblés, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans la presse.